Voilà, quand on avait fait un culte un petit peu particulier du fait de l'achat des locaux. Donc, on avait revisité cette dédicace du temple par Salomon, où Salomon parlait du temple comme d'un lieu de prière, un lieu de pardon, un lieu d'accueil pour l'étranger, que chacun qui rentrait dans le temple, eh bien, puisse voir sa prière écoutée par Dieu. Et il me semble que c'est toujours d'actualité. On avait poursuivi avec une lecture dans les chroniques, la mise en place par Salomon et sous l'autorité du roi David, toute la mise en place du culte chrétien, enfin chrétien, judaïque. Avec les chantres, la musique, et puis le temple est devenu un lieu de prière 24 heures sur 24. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette vérité de l'Ancienne Alliance peut être toujours vivante dans nos cœurs? On avait vu ces textes que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, nous étions exhortés à louer Dieu, à chanter des cantiques, à chanter dans nos cœurs le plus que l'on pouvait. Et puis, on avait vu un petit peu quelques textes du culte céleste. Ce culte, il dure 24 heures sur 24. Et j'avais envie de continuer, de faire ce partage par rapport à l'Église. L'Église, c'est nous. Et ensemble, eh bien, nous sommes un lieu de prière, un lieu de pardon. Un lieu où Dieu parle, un lieu où Dieu se révèle, un lieu où ensemble, et on l'a entendu ce matin, nous sommes à la recherche et à l'écoute de Dieu. J'aimerais reprendre avec vous le premier chapitre des Actes, un petit peu le message que Jésus a laissé à ses disciples juste avant de partir. On va relire quelques textes dans les Actes. Voilà les premiers versets de Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusque dans le Finistère. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérait dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Après l'assemblée au désert, après le temple de Jérusalem et tout ce judaïsme, aujourd'hui, Jésus nous laisse l'Esprit Saint. Cette promesse d'il y a 2000 ans est toujours valable aujourd'hui. On n'a pas vu Jésus aller au ciel, mais on sait par l'Esprit qu'il y est. Parce que l'Esprit nous le révèle, nous le dit, nous le chuchote. Et quand l'Esprit Saint vient dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos intelligences, quelque chose s'éclaire et on comprend. Et l'Église est le lieu où tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. La fidélité dans le temps, et depuis un peu plus de 30 ans avec Jean-Marc, la fidélité dans la prière, le cœur de l'Église, c'est la prière. Il n'est pas dit tous d'un commun accord, on fait plein de choses. Il nous a juste dit l'essentiel. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes, avec tout le monde. Tous sont inclus dans la prière, dans la recherche de Dieu. Et je crois que c'était l'ouverture de Jean-Marc ce matin, et puis un petit peu ces paroles inspirées qu'on a reçues. De chercher Dieu, d'aspirer à Dieu. On poursuit la lecture dans Acte 2. Je vais lire des textes que vous connaissez peut-être, mais c'est bien de les relire en Église. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je pense que la première Église a fait envie. Il s'est passé quelque chose par la puissance de l'Esprit. Et la vie des 120, ce qu'ils ont témoigné autour d'eux, a fait envie. Puis petit à petit, eh bien, les gens se sont agrégés. Leur point fixe était au temple. Et ils y allaient pour l'enseignement qu'ils recevaient, pour la fraction du pain, la communion fraternelle et pour la prière. Ces quatre choses anciennes demeurent parce qu'elles peuvent être encore nouvelles au milieu de nous. À part aujourd'hui, parce qu'il y a, bon, là j'ai tout à l'heure, mais on partage le pain et le vin, on écoute l'enseignement. On est dans la communion fraternelle et on essaye tous les mercredis soirs et une fois tous les vendredis. Et puis après, dans notre culte personnel, de prier les uns pour les autres. Après, on voit qu'il y a eu quelque chose de très fort entre eux au point qu'ils avaient du mal à se quitter et ils sont entrés dans une offre collective qui s'est terminée par une persécution. Et puis tout le monde a été un petit peu dispatché, comme ça dans le Moyen-Orient, dans l'Empire romain. Et c'est comme ça que l'Église est née et s'est développée. C'est comme ça que Paul, Timothée, etc. Et puis, ont été jusqu'en Asie mineure, en Turquie, en Grèce, à Rome, en Espagne. Et puis petit à petit, tout le Moyen-Orient, tout le bassin méditerranéen a été envahi par la parole de Dieu et l'Église. Comme cela s'est développé. On poursuit encore avec un texte dans les Actes, Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église a été en paix pendant un temps. Pendant un temps, il y a eu un temps d'expansion, où on a bâti, une vie intense qui s'est développée. Se construisant, s'édifiant comme un temple, comme quelque chose que l'on construit. C'est revenu beaucoup de ces derniers temps, marchant dans la crainte de Dieu. Pas dans la peur de Dieu, mais dans le respect de ce que Dieu fait. Et l'Église a développé toutes sortes de programmes pour se développer. Des programmes sur les ondes, des programmes par le livre, des programmes dans l'Église, des programmes avec le groupe de louanges, des programmes avec... C'est ce qui est écrit. Hein. Elle s'accroissait par tous les programmes qu'elle a développés. Bon, je vous relis. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est un autre type de croissance que simplement d'entrer dans des formules, dans des... Depuis un peu plus de 25 ans, que ce soit Jean-Marc ou moi, on a hébergé, accueilli des jeunes qui sortaient de collège public et qui disaient, moi je veux créer l'église de Rick Warren. Un type qui a développé toute une église aux États-Unis. Et puis en quelques années, 1000, 2000, 3000, 4000, plein d'églises. Et puis quelques années après, le couple était séparé, chacun était de son côté, il n'avait rien bâti. Et puis l'église de Rick Warren, ben, elle est restée là où était Rick Warren, aux États-Unis. On a vu comme ça toutes sortes de programmes. Là, en ce moment, hein, c'est avec Jean-Marc, c'est Sozo. Et puis voilà. C'est... Tous les 3 ans, tous les 4-5 ans, il y a un mouvement qui vient de... C'est autre chose que de rencontrer le Christ et d'être rempli de l'Esprit. Et d'avoir pour tout programme la relation avec Dieu. La recherche de ce que Dieu veut que je sois. L'Église était en paix, Dieu nous donne. Pour le moment, nous sommes en paix, nous, pour nous développer. Ce n'est pas le cas partout. Certains endroits, c'est plus difficile. S'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que l'on peut faire confiance? Souvent, je dis dans mon témoignage, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour bâtir une Église? Pour moi, ça n'a jamais été un problème de foi. Si le Seigneur compte que sur moi, il compte sur chacun d'entre nous, mais surtout sur son esprit. Son esprit est présent auprès de chacun d'entre nous, grand, petit, engagé, moins engagé, peu importe. Ah, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à 3000, 5000. Première année de conversion, je me disais, waouh, quand je vois ce que Dieu peut faire dans ma vie, dans 10 ans, le monde entier est converti. Jeune converti, on est toujours plein de... On se dit, ah ouais, c'est... s'il l'a fait avec moi, pour moi, il peut le... Voilà, mais ça... Après, il y a toute cette œuvre cachée dans le monde, et puis qui sera révélée lors du retour du Seigneur. Comment est-ce que cet accroissement par l'assistance du Saint-Esprit peut encore se faire aujourd'hui? J'aimerais juste voir avec vous 8 points de croissance, de travail ensemble, de commun accord. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble d'un commun accord par le Saint-Esprit? Eh bien, déjà, vivre ensemble dans le partage, dans la communion, les uns les autres. On prend un texte, Éphésiens 4, 12, pour pouvoir s'édifier, grandir ensemble. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Le mot perfectionnement, là, ça veut dire réparation. Comme quand un membre est cassé, on met une attelle et puis on répare. Ensemble, nous sommes là pour être réparés par Dieu, pour faire cette œuvre du corps de Christ. Il m'a fallu que quelques mois de conversion, de lire les Actes des Apôtres, et de dire, ouais, Seigneur, moi je veux une église, comme il y a dans les Actes des Apôtres, quelque chose de vivant, quelque chose qui vient de toi. Pas un programme, pas une structure. On va parler de la structure tout à l'heure, puisque par rapport au gouvernement, au ministre du culte, on est obligé d'avoir des choses impératives qui sont faites tous les ans. Voilà, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas le programme l'essentiel. L'essentiel, c'est la relation, la recherche que l'on a du Christ Jésus, et puis de vivre par le Saint-Esprit. De comprendre profondément qu'est-ce que c'est que le corps de Christ, d'avoir envie d'y participer et de le faire grandir de l'intérieur. Que chacun grandisse en Christ, en Dieu, dans la parole, et qu'ensemble nous soyons ce corps de Christ, dont Christ est la tête, le chef. Partage de réparation. De guérison, d'édification, de construction ensemble. Au service de tous, 1 Pierre 4, 10, l'Église de Christ ne grandit que si elle est au bénéfice de tous. Des textes qu'on a déjà lus, mais j'aime bien lire et relire ces textes. 1 Pierre 4,10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. L'Église ne grandit que s'il y a une mise en commun. Il y a un mot grec pour ça, c'est la koinonia, la communion fraternelle, communion avec Dieu. Communion profonde. Vivre pour les autres, pour donner aux autres, donner ce que l'on a reçu. Quand Jésus a mis tous ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, et qu'il a voulu leur parler, puis à un moment donné, le temps était long. Et puis les disciples ont dit, c'est l'heure de manger. Et Jésus leur a dit, mais qu'est-ce qu'on a ? Ah ben, on n'a rien, on n'a pas le temps d'aller faire les courses. Il n'y avait pas Leclerc au champ à l'époque. Ils ont récupéré quelques pains et quelques poissons. Donnez ce que vous avez reçu, même si ce n'est pas grand-chose. Jésus a rendu grâce, a fait le partage. Il y en a eu pour tout le monde. Ils ont récupéré combien de paniers ? 12 paniers de surplus. On pourrait penser que ce que l'on est, ce que l'on a, c'est rien, c'est peu, c'est insignifiant. Ce que j'ai reçu de Dieu est précieux pour le service de tous. Mettez au service les uns des autres les dons que vous avez reçus. Pouvoir le faire avec joie, avec zèle. Je pense que dans le temple, dans la première église, les gens étaient zélés pour Dieu. On partage un texte dans Romains 12. Je le cite souvent. Alors j'ai beaucoup de textes préférés. Celui-là en fait partie. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est un petit peu ce que Jean-Marc disait ce matin. On vient à l'église aussi pour rechercher Dieu, recevoir le Christ, être renouvelé tout à nouveau, tout au long de nos jours, tout au long de notre vie. Je vous lis le verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Un lieu où on est réparé, guéri, accompagné. Un lieu de vie où on veille les uns sur les autres, où il y a de la protection. 1 Corinthiens 12. Oui, c'est pas que des structures, l'Église, c'est aussi toute cette vie intérieure que l'on manifeste les uns envers les autres. 1 Corinthiens 12, 22, 26. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Toute la révélation du corps de Christ et de l'Église, pour moi, est soumise aussi à révélation par l'Esprit Saint. Comment comprendre ce texte, si ce n'est d'être animé par l'Esprit Saint ? Et comprendre que ce que je suis et ce que Christ est en moi est là non pas pour ma satisfaction personnelle, mais pour être donné aux autres. Pour être une colonne, pour être un appui, pour être... Pour moi, la vision de l'Église que donne le Nouveau Testament est quelque chose qui est extrêmement motivant, extrêmement intéressant, quelque chose qui va durer pour l'éternité, quelque chose qui donne de la valeur, du sens, un projet aussi à nos vies. Le Seigneur a parlé de projet ce matin, j'ai des projets pour toi. Vivre ensemble des temps de culte édifiants. J'aimerais lire avec vous le psaume 100. On revisite comme ça quelques textes que l'on peut vivre ensemble. C'est des textes à partager, à vivre ensemble. Psaume 100, il n'est pas très long. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. Quand Jésus va revenir, il dit que même ceux qui l'ont percé le verront, puis là, il y aura quelque chose vraiment d'extraordinaire. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. À une époque où, au niveau international, les responsables de l'Église d'Angleterre donnaient comme ça un verset de l'Écriture pour toute l'année. Et il y a eu une année où c'était ce verset, « Servez l'Éternel avec joie ». Moi, je me rappelle de tous ces mots d'ordre, ces motos, ces paroles de Dieu qu'on a reçues comme ça, qui étaient faites pour l'ensemble des Églises apostoliques en Europe. « Servez l'Éternel avec joie ». Comment est-ce que l'Esprit-Saint, notre communion avec l'Esprit-Saint, peut être une source de joie, une source de motivation? Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, qu'on puisse le faire et le vivre ensemble, pleinement. avoir divers types de réunions. Dans l'Église, il y a toutes sortes de réunions. Les rendez-vous de la Bible, les réunions de prière. Voilà, c'est aussi toute la richesse de l'Église. On a vu tout à l'heure, hein, il y avait des rencontres pour l'enseignement, des rencontres pour la communion, des rencontres pour la fraction du pain et des rencontres pour les prières. Mais le moteur le plus puissant, le plus fort de l'Église, c'est la prière ensemble. Quand le peuple de Dieu fait monter ensemble des prières vers lui, avec des louanges. Mais il y a quelque chose qui se passe. Témoins ensemble, c'est septième point de croissance ou chose qu'on peut vivre ensemble. Matthieu 28, 20, je pense aussi que c'est un texte que vous allez reconnaître, que très certainement vous devez connaître. Verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La parole de ce matin disait, « Voilà, avance, viens vers moi, j'ai des projets pour toi tous les jours de ta vie. » C'est toujours un défi de rester motivé. Dans la vie avec Dieu, dans le service, parfois on a des baisses de régime. Prions pour les nations. Je pense que le monde est dans un point clé en ce moment. Bien sûr, à cause de tout ce qui se passe, mais... Voilà, pouvoir prier, là aussi par l'Esprit, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Les nations, la terre souffrent. Il n'y a pas forcément beaucoup de solutions, ou en tous les cas, le péché nous empêche de les mettre en œuvre. Il y a des solutions aujourd'hui pour rénover la terre, pour la fraternité, mais le péché fait qu'il y a un bug. Quand l'ONU, quand toutes les instances, les structures, les programmes mondiaux veulent se mettre en place, il y en a toujours un qui dit « Non, moi je ne suis pas partant. » Donc ça tombe à l'eau et puis on fait la COP19, la COP21, la COP27. Et puis on discute et puis à la fin on décide de pas grand-chose. Et puis à la fin, il y en a un qui dit « Il faut sortir le portefeuille. » Alors tout le monde dit bah, « on ne sait pas où est le portefeuille. » Comment est-ce que notre attente peut être renouvelée dans notre prière « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Il dit à chaque fois qu'on fait la fraction du pain, qu'on partage le pain et le vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Comment est-ce que ce feu, ce désir, cet amour peut rester, peut durer, peut être renouvelé dans nos cœurs? Quand j'ai une baisse de régime, bah, je pense à tout ce que l'Église peut être et à tout ce que Jésus est dans l'Église. Par le Saint-Esprit, je me dis, oh, Seigneur, ouais, continue de me rendre vivant, continue de m'encourager. 1 Jean 1, versets 5 et 7, et puis on va approcher de la fin de ces 8 points. Voilà comment vivre en Église, être heureux en Église. Comment être dans le partage, dans la communion. 1 Jean, chapitre 1, les versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. Si on marche dans la lumière les uns avec les autres, Nous sommes en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et nous sommes mutuellement en communion. Le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin d'un lieu de communion. Communion verticale, communion horizontale. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a une libération, il y a un pardon, il y a une guérison qui se fait au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. Un texte de conclusion, 1 Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 8. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, dissimulation, envie, médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. » Continuez d'être comme des enfants nouveau-nés, les uns envers les autres, et pouvoir s'encourager les uns envers les autres. Si on a goûté que le Seigneur est bon, approchons-nous de lui. C'était l'entrée de l'ouverture de Jean-Marc ce matin. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiantes. La croissance de chacun dépend de nous. Elle est personnelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On a vu ces images du temple. Il y a plein d'images de l'Église dans l'Écriture. J'en ai relevé une douzaine. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Soyons ensemble un temple pour l'Esprit. Que les nations, que le monde, voilà, puissent trouver la réparation, la guérison. Père Céleste, on veut bénir ton nom, nous faire entrer dans ta présence, dans ton royaume, mais aussi de nous faire comprendre à quel point le corps de Christ, l'Église, l'Ecclésia est quelque chose d'extraordinaire. Merci Jésus d'être celui qui permet la croissance de l'Église par le Saint-Esprit. Et on veut te remettre tous nos programmes, tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait, tout ce que nous aimerions faire. Voilà, pour que ce soit toi qui continues à faire grandir, à faire croître cette Église de l'intérieur, comme un organisme vivant, comme un arbre, comme quelque chose qui porte du fruit. Merci de nous aider chacun à être membre vivant de ton corps. Merci pour les forts et les faibles. Merci pour ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui en ont moins besoin, peu importe. Merci de nous apprendre à nous accueillir les uns les autres et à voir chacun de l'autre comme étant quelqu'un de plus grand que nous, plus grand que moi. Paul disait, je suis le dernier des apôtres, le dernier des membres de Christ, et pourtant je suis aimé de Christ. Merci de nous faire continuer de nous faire connaître ton amour. Amen.